Ça ressemble beaucoup à l'âge de Speed qui est donné pour une question kabbaliste en Israël. Quoique en Israël, nous savons 40 ans, c'est un âge mental, surtout qu'on réclame. Ce n'est pas tellement un âge
Ouais.
réel. Et on ne sait pas très bien. En tout cas, personnellement, je ne sais pas. Mais très certainement, actuellement, les Druzes sont une ficelle de l'islam. C'est-à-dire c'est une manière d'être musulman, mais malgré tout, du point de vue de leur société, ils ont des rites. Et certainement des doctrines spécifiques à la religion de trouver. Nous avons étudié ce problème jeudi soir. Il y a une sorte d'héritage de l'identité d'Abraham qui est très voisin de la manière dont l'héritage d'Abraham s'est perpétué en Israël. C'est une identification absolue entre la perspective religieuse et la perspective morale. Et au fond, l'initiation, disons dire, de Moïse chez les troupes pendant ces 40 ans où il restait dans le pays de Midian, c'était, si vous voulez, d'apprendre des référés préalables à la révélation de la Torah. Et ce n'était pas des référés spécifiques. Vous pensez à la question pourquoi il y a des Juifs qui souffrent et finalement, c'est la deuxième réponse qui est l'essentielle. Tzadik v'tovlo, tzadik gamour, rachar v'tzadik v'ravlo, tzadik she'eno gamour, rachar v'tovlo, rachar she'eno gamour, rachar v'ravlo, rachar gamour. C'est-à-dire, un juste, et il a du bien, c'est que c'est un juste absolu, un juste total. Un juste, et il a du mal, c'est que c'est un juste qui n'est pas complètement juste. Un méchant, et il a du bien, c'est un méchant qui n'est pas complètement méchant. Et un méchant, et il a du mal, c'est un méchant qui est complètement méchant. Mais alors là, dans la réponse de la Gemara, le mot de Tov et de Ra ne signifie pas exactement le bonheur et le malheur, mais signifie, comme je l'ai traduit, le bien et le mal. C'est-à-dire en schématisant beaucoup, parce que c'est un problème énorme, ce problème que nous citons ici. C'est un tzadik, Tovlo. C'est-à-dire, non seulement il est tzaddik, mais il a aussi le bien en lui, alors celui-là est un juste absolu. Non seulement, ou bien, rachat de Ravlo, non seulement c'est un rachat, c'est un méchant, mais il a le mal en lui, alors celui-là c'est un méchant absolu. La première réponse était une relation avec la filiation de juste entre eux. Un juste, fils de juste, est différent d'un juste et fils de rachat. Un rachat, fils de rachat, est différent d'un rachat qui n'est pas fils de rachat. Il y a là une situation paroxysmale du tzadik ou du rachat qui est présentée de manière. C'est un problème très vaste, mais je crois qu'il est important de comprendre que c'est effectivement la question de Job. Cette question a été posée deux fois, finalement. Une fois avant la Torah, par Job, et une fois après la Torah, par le roi Salomon. Lorsqu'on compare le livre de Job et le livre de Kohelet, on s'aperçoit qu'il y a une très grande analogie dans la problématique de la question de l'Ecclésiaste et de la problématique de la question de Job. La différence, c'est qu'il y a une différence qui est de tragique. Job pose sa question avant que la Torah ne soit donnée. Alors il y a un espoir. La Torah n'est pas encore donnée. Mais, si vous voulez, Kohelet, Salomon pose sa question après l'histoire de la Torah. Salomon, c'est le fils de David. Après la tentative de la Torah, voilà que de nouveau la question se pose. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a une dimension certainement plus tragique que encore dans le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a Deus ex machina, si j'ose dire. À la fin du livre de Job, Dieu se révèle et tout s'arrange. Tandis qu'à la fin du livre de l'Ecclésiaste, le verset clé dit. Sauf d'avoir un cauchemar, fais attention, crains Dieu et obéis à ses commandements et débrouille-toi. Et vous voyez, selon un des midrashs de la Kabbalah, l'histoire, l'or avant la Torah, c'est très exactement Terah, le père d'Abraham. Vous voyez, avant que l'histoire d'Abraham commence, la question de Job. Et après l'histoire de David, de nouveau, la question, mais c'est la question de. Du roi Salomon, du fils de David. Entre-temps, il y a eu la Torah, par conséquent, il y a une réponse. Mais l'enjeu, le risque, est certainement plus tragique, plus dramatique. qu'il faut aller sauver, représenter. Et ça, ça a duré 40 ans. Est-ce que vous comprenez bien ça? À partir du moment où il y a cette révélation, alors bien entendu, il faut que Dieu dise ce qu'il y a à faire. Mais jusque-là, c'était l'initiative de Moïse lui-même. Moi, je suis bien formel, j'ai bien compris votre question, mais je suis absolument formel. C'est que la raison pour laquelle, d'ailleurs, Moïse a été contesté tant par Israël que par les Égyptiens, c'est que finalement, c'est au bout de 210 ans seulement après la prophétie des 400 ans de Christ, vous voyez qu'il y a une anticipation qui a été déclenchée par l'initiative de Moïse, et Dieu l'a confirmé. Pourquoi nous disons dans la Haggadah, c'est-à-dire que nous avons recruché le sacrifice, Dieu a refait des comptes de la fin, d'accord, pour faire coïncider ces 400 ans, bien que nous n'étions qu'au bout de 210 ans. Alors il a ajouté 190 ans, pris sur la vie des patriarches, et il a pu le faire, parce que la vertu des patriarches avait été de se considérer en situation d'exil avant même que ne commence le temps de l'exil pendant 190 ans. Alors ça semble juste, tout se passe comme si que les patriarches soient cabalistes, ça va de soi, mais que Dieu lui-même de soi, ça dépasse tout. Mais c'est ça, la cause de l'Europe, si c'est le paquet, il a fait le compte de qu'est-ce que ça fait 190, c'est-à-dire la fin. Et puis, la sortie d'Égypte a été permise à ce niveau, mais par l'initiative de Moïse. Et comme vous le savez, c'est 1900 ans, c'est-à-dire 10 fois plus, très exactement, après la destruction du temple, que Jérusalem a été rendue aux Juifs, très exactement, en 1728, c'était 1900 ans après la destruction du temple. C'est pas vous affoler, c'est simplement une explication de ça. Non, c'est pas important effectivement comme problème. Vous savez, à ce moment-là, le Shlav parle de ça. Le Shlav pose votre question et il a répondu. Moshe était Tiron Bamboa. Tiron Bamboa, il était encore au temps où il était apprenti dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez la réponse que je vous donne? C'est-à-dire, ce n'est pas encore Moïse qui voit clairement ce que la Torah a dit. Il est apprenti. Il peut supposer
que finalement l'essentiel de la promesse est donné à Abraham et que si cette lignée d'Abraham à travers Isaac et Jacob a échoué, eh bien il y a quand même une autre lignée d'Abraham et c'est Midian. C'est facile à concevoir. Et ce n'est que 40 ans après que vraiment confirmé dans sa connaissance de la prophétie, il prend acte que c'est seulement Israël qui est Israël.
Comment fait-il?
Il a une expérience
de ce que sont les Hébreux de l'époque, et la Sinachina, la Machloket, il s'agissait de Dathan et Abiram dans cette Machloket. Vous voyez, il connaît sa communauté, et il sait que voilà, Dieu lui dit, va prêcher la morale ultime et universelle à Israël comme peuple des prêtres pour témoigner de la moralité absolue. Mais il connaît ses juifs, il sait très bien que ça va marcher. Alors il me suit. Oui, c'est ça qu'on nous promet. Si j'ose dire, Moïse, à ce moment-là, n'est pas du tout au niveau fin d'étude, ça veut dire rabbinique, pour faire prophétie. Il était Tiron Bamboa. Il était encore élève rabbin. Oui.
Une
alliance réelle. Jusqu'à présent. On voit dans toute l'histoire du temps des prophètes, du temps des juges, du temps des rois, c'est que les Kénim, comme on les appelle à l'époque, sont des alliés naturels d'Israël. Et ce qui est vraiment très frappant, c'est de voir à quel point les Druzes contemporains, qui sont les descendants de cette communauté, sont vraiment presque de façon inconditionnelle notre ami, notre allié. Oui. Je crois qu'il faut dire que, au fond, parmi toutes les motivations, qui tendent à légitimer